Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. La Russie a envahi l'Ukraine il y a 3 mois. On s'est demandé si Vladimir Poutine est en train de gagner la guerre. Les crypto-monnaies remplaceront-elles un jour l'euro ? Impossible, répond Dominique Burns. Mais avant, la Wallonie a bouclé son conclave budgétaire. Nous sommes le mardi 24 mai. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Après 5 jours de conclave, le gouvernement wallon a bouclé son ajustement budgétaire pour cette année. Il devait trouver 505 millions d'euros pour ne pas augmenter le déficit et l'endettement. Et il a franchi l'obstacle, même si l'endettement de la Wallonie continue à poser problème dans un contexte difficile avec la crise du Covid, les inondations et la guerre en Ukraine. On décrypte avec Éric Defay qui couvre la politique wallonne.
Donc le chiffre de 505 millions, c'était ce qui était sur la table au début du conclave budgétaire au milieu de la semaine passée. En début d'exercice, le budget initial de la Wallonie pour 2022 enregistrait, pour résumer, un déficit de 4,1 milliards. Les finances étaient dégradées au cours des premiers mois de l'année, en raison notamment de l'évolution de la conjoncture, l'inflation, etc. Il y avait 505 millions qui venaient s'ajouter aux 4,1 milliards. Il fallait absolument corriger le tir pour essayer au moins de se retrouver dans ces 4,1 milliards de déficit pour ne pas à nouveau alourdir la dette et le déficit.
Comment le gouvernement a trouvé l'argent nécessaire ?
Ça n'a pas été trop difficile, semble-t-il, parce que c'est beaucoup de techniques budgétaires. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais il y a des recettes qui sont un peu plus importantes que prévues, des dépenses qui sont un peu moins importantes que prévues. Et puis, on peut techniquement dire que tel projet qu'on comptait faire sur 2 ans, ben on le fait sur 4 ans, etc. Donc, il y a des techniques budgétaires, réduire un peu les frais de fonctionnement. Et donc, le gouvernement a trouvé plusieurs centaines de millions, au-delà même des 505 millions dont on parlait, ce qui permet de réduire le déficit global, qui était de 4,1 milliards à 3,9 milliards. Voilà, c'est une petite réduction symbolique puisqu'on passe sous la barre des 4 milliards d'endettement pour cette année 2022.
Le gouvernement devait aussi identifier 150 millions d'économies structurelles. Comment il y arrive ?
Il faut savoir que c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'un rapport qui avait été commandé à des experts montre que la dette globale de la Wallonie est à la limite du soutenable. Ça veut dire qu'il y a un moment où les finances wallonnes ne pourront plus l'assumer. Il faut imaginer qu'on est à 30 milliards cumulés de dette pour la Wallonie, ce qui fait 200% des recettes wallonnes, ce qui était énorme. Il faut absolument inverser la tendance. Et donc, les experts ont recommandé que chaque année, on fasse 150 millions d'économies structurelles de manière cumulative. Donc c'est 150 millions en 2022, 300 millions en 2023, 450 en 2024, etc. Ce qui veut dire que ça va seulement commencer à être difficile à partir de l'année prochaine. Et 150 millions, on a été rechercher un peu d'argent qui dormait sur, par exemple, les comptes de certains outils pararégionaux, des administrations qui reçoivent des dotations chaque année, qui n'utilisent pas tout, etc. Donc, on peut jouer sur ces montants-là, réduire aussi des frais de fonctionnement, des politiques qui n'ont pas connu l'effet souhaité et qui sont un peu rabotées. 150 millions sur un budget de 15 milliards de recettes, c'est sans trop de difficultés. Le problème va seulement venir maintenant.
Est-ce que la Wallonie doit tailler dans son plan de relance ?
Non. C'est la bonne nouvelle, si l'on peut dire. Toutes les mesures dont on parle permettent de continuer à investir dans la relance, permettent aussi de continuer sans doute à aider les victimes des inondations, etc. À noter d'ailleurs que le budget prévoit désormais, c'est tout nouveau, une provision de 100 millions d'euros pour l'Ukraine, pas pour donner à l'Ukraine, mais pour prévenir les problèmes économiques, par exemple sociaux, qui pourraient être liés à la crise en Ukraine, notamment d'ailleurs l'accueil des réfugiés en Wallonie.
Pour résumer, ce conclave budgétaire, c'est un sparadrap sur le problème de la dette ou on s'attaque au problème en profondeur ?
L'expression sparadrap est un peu méchante peut-être, mais on a quand même l'impression que le gouvernement a évité le pire, donc il ne fallait surtout pas que la dette continue à s'accumuler, que les déficits continuent à se creuser. On a mis une sorte de stop en allant choisir des mesures et parfois des mesurettes. Mais effectivement, les fondations de la Wallonie restent fragiles avec un endettement qui reste colossal, avec des déficits qui sont structurels, même si la trajectoire du retour vers l'équilibre reste soutenue, ça reste un édifice fragile.
Grand angle.
La Russie va-t-elle renverser l'armée ukrainienne ? Les Ukrainiens peuvent-ils résister et contrecarrer les plans de Vladimir Poutine ? Quelle est la situation militaire sur le terrain ? L'invasion russe a démarré dans la nuit du 24 février, il y a tout juste 3 mois. On fait le point avec Pauline Hoffmann, journaliste au Service Monde. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Pour commencer, on en est où sur le terrain en Ukraine actuellement ?
Donc ça fait 3 mois que cette guerre a commencé et il s'est passé évidemment beaucoup beaucoup de choses. Déjà, on peut juste rappeler que en 3 mois, la Russie a perdu des forces, notamment avec la bataille de Kiev, donc ils se sont retirés de cet endroit-là. Mais par ailleurs, les forces russes ont beaucoup avancé dans le sud et dans l'est du pays, donc c'est-à-dire au nord de la Crimée et le Donbass. Elles ont vraiment fait avancer les lignes de front par rapport à là où on en était avant le 24 février. Mais à d'autres endroits, notamment dans le nord-est, à Kharkiv, on voit que l'armée russe a reculé. Elle n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait et donc elle a concentré ses forces actuellement dans le Donbass, mais au prix de pertes assez considérables.
Quel est le bilan militaire après 3 mois de guerre pour la Russie ?
Alors, pour la Russie, comme pour l'Ukraine, c'est extrêmement compliqué de le dire. Joseph Enrotin, qui est un expert militaire, m'a dit « il n'y a que les imbéciles qui ne sont pas perdus dans les bilans matériels et dans les bilans humains ». Les estimations, pour vous dire, vont de 5 000 à 50 000 pertes pour les Russes en termes de pertes humaines. C'est énorme, c'est impossible de savoir. Il y a sûrement un juste milieu entre tout ça, mais on ne peut pas le dire pour la simple et bonne raison que c'est évidemment un secret de guerre qui est extrêmement bien gardé. En revanche, il y a quelque chose qu'on pense savoir, c'est le rapport entre les morts et les blessés. C'est assez important parce que quand on parle de bilan humain, on a toujours tendance à parler des morts, mais en fait on oublie qu'un homme qui est blessé ne peut plus combattre. Et donc c'est exactement la même chose en fait pour une armée. Actuellement, la Russie, il semble qu'il y a un mort pour 2 blessés. En fait, c'est à peu près là où on en était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment pas un très très bon bilan pour la Russie.
Et pour l'Ukraine, quel est le bilan ?
Alors pareil, zone d'ombre totale sur les chiffres. Le ministère ukrainien de la Défense avait donné des chiffres mi-avril, mais depuis, donc 1 mois et demi plus tard, on n'a absolument plus rien. Hier, le président Zelensky a affirmé qu'il y avait entre 50 et 100 soldats qui mouraient chaque jour dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que c'est un bilan réel ? Est-ce que c'est un bilan sous-estimé ? Il y a forcément un intérêt pour chaque armée à sous-estimer le bilan humain de ses pertes.
Et pour la population ukrainienne ?
C'est elle qui en souffre. La première, c'est assez évident, je veux dire. Évidemment, il y a beaucoup de civils qui meurent dans ces combats qui se déroulent souvent dans des zones habitées et puis l'armée russe ne vise pas spécifiquement des objectifs militaires, donc forcément, il y a des civils qui meurent. Donc, au-delà même de ces morts civiles, il faut compter sur les personnes qui se sont exilées et qui donc ont globalement perdu tout repère, tous les traumas psychologiques énormes. Et puis, par ailleurs, l'Ukraine, c'est une économie qui est à genoux actuellement. Elle a beaucoup de difficultés à produire, elle a besoin d'aide et en plus, elle va devoir reconstruire toutes ses infrastructures. Ça demande énormément, énormément d'argent. Donc l'Ukraine est clairement la première victime de ces 3 mois de guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que la Russie est en train de gagner la guerre aujourd'hui ?
C'est un peu la question à 1 000 euros. Gagner la guerre, ça dépend comment on regarde. Et en fait, pour savoir si la Russie gagne une guerre ou peut gagner la guerre, il faut savoir ce qu'elle veut faire. Et ça, personne n'est capable de dire si la Russie a l'intention d'envahir toute l'Ukraine, d'envahir juste le Donbass, de simplement déstabiliser l'Ukraine, de remplacer le président. Personne ne sait ce que veut Vladimir Poutine. On sait qu'il parle de dénazifier l'Ukraine, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Qu'est-ce que ça entend sur le terrain ? Est-ce que c'est se débarrasser de la totalité des bataillons ukrainiens ? J'en ai aucune idée et personne ne le sait. En fait, ça change un peu selon les moments. Au début, on s'est dit, bah tiens, en fait, les Russes ont l'intention de reconnaître les républiques séparatistes du Donbass et donc de prendre le Donbass. Et puis finalement, ils ont attaqué par le nord également, donc par Kiev. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Et puis ensuite, on s'est dit, bah tiens, Kiev pourrait être une diversion, mais pourquoi faire une diversion si on perd autant d'hommes à cet endroit-là ? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'en Transnistrie, qui est donc cette république séparatiste de Moldavie, peut-être bien. Personne ne sait ce que veut Vladimir Poutine et donc personne n'est capable de dire s'il est en train de gagner ou de perdre cette guerre. Et peut-être même qu'il change ses objectifs par ailleurs en fonction de ce qui l'arrange.
Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il a obtenu réellement dans ce conflit ?
En tout cas, pour l'instant, il a avancé militairement sur le terrain, comme on l'a dit, dans l'est et dans le sud du pays. Après, attention, avancer, c'est pas tenir des zones, c'est pas tenir un territoire. Il a aussi déstabilisé fortement l'économie mondiale, mais sa propre économie aussi par le biais des sanctions occidentales. Et il a perturbé, en tout cas, le jeu géopolitique. Est-ce que c'est ce qu'il cherchait à faire ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Mais il a perturbé le jeu géopolitique dans un sens qui va, pour l'instant, en tout cas, plutôt dans le sens des alliés, puisqu'on voit que l'OTAN, qui était un peu une institution morte, j'exagère en disant ça, mais en tout cas qui était un peu lente, s'est resserrée. Et l'Union européenne aussi a relancé une politique de défense qui avait été jusqu'à là inimaginable.
Vous l'avez dit, prendre un territoire n'est pas du tout la même chose militairement que de le garder.
C'est extrêmement différent pour une simple et bonne raison. C'est qu'une armée qui est à l'offensive, la Russie en l'occurrence, perd toujours beaucoup plus qu'une armée qui est en défensive, à savoir l'Ukraine. Et donc forcément, à un moment, la Russie va se retrouver avec beaucoup plus de pertes et en situation de fragilité. Ça peut être exactement à ce moment-là que l'Ukraine peut choisir de faire une contre-offensive. Comment réussir à faire une contre-offensive dans un endroit que vous tenez seulement depuis quelques semaines, quelques mois ? Il faut aussi rajouter à ça, par ailleurs, que les Ukrainiens des zones qui ont été conquises par la Russie n'apprécient pas tout à fait ce qui est en train de se dérouler et l'occupation russe. Il y a un cas à Kherson visiblement qui est assez marrant où les habitants s'amusent à descendre les drapeaux russes pour remonter des drapeaux ukrainiens. Toujours Joseph Enrotin qui est expert militaire me disait qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact moral de ce genre de résistance non violente.
Vous couvrez ce conflit au sein du service Monde depuis maintenant 3 mois. Comment on fait pour donner des perspectives sur ce qui se passe sur le terrain depuis Bruxelles ?
C'est évidemment toujours compliqué. On travaille avec des correspondants qui sont en Ukraine et qui nous racontent ce qui se passe, mais nous, on est ici. On se base évidemment beaucoup sur les experts militaires qui eux-mêmes expliquent ce qui se passe, mais se risquent rarement à expliquer ce qui va se passer. La guerre, c'est quelque chose qui est en cours, qui bouge tout le temps. Les questions de stratégie militaire, en fait, on n'a pas le dessous des cartes. On n'est pas dans la tête de Poutine et on n'a pas de contact avec son état-major qui nous raconte exactement ce qu'ils ont envie de faire. Dans ce cadre-là, il faut voir comment les choses se passent et en fait, souvent, on interprète ce qui est en train de se passer. On fait de l'actualité et après il y a l'histoire. La guerre c'est un truc d'histoire. Souvent, des années plus tard, on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé et c'est aux historiens de faire ce travail-là, quoi.
Merci Pauline.
Merci.
Les détenteurs de crypto-monnaies ont pris quelques cheveux blancs ces derniers jours. Le marché de ces devises numériques qui fonctionnent sans banque centrale s'est écroulé. Cela ne veut pas forcément dire que les cryptos vont disparaître, mais elles ne devraient pas, comme le rêvaient certains, remplacer l'euro ou le dollar. Le crack a révélé le côté pile de la pièce. Le marché de ces monnaies sans État a besoin d'un ancrage sur la monnaie d'État. C'est l'analyse de Dominique Berns du service économique qui nous explique pourquoi le Bitcoin ou le Terra ne remplaceront pas l'euro ou le dollar.
La monnaie, en pratique, chacun de nous sait ce que c'est. C'est les billets dans le portefeuille et c'est l'argent qui est sur nos comptes bancaires. Et l'on sait aussi que c'est une affaire d'État. En Belgique, en France, en Allemagne, on utilise l'euro. Aux États-Unis, on utilise le dollar. Parce que c'est l'État qui décide quelle est la monnaie qui a cours légal, quelle est la monnaie qui permet de payer ses dettes, de payer ses impôts. Et c'est la Banque centrale, donc c'est l'État, qui est chargé d'en garantir la valeur.
Mais certains rêvent pourtant de monnaie sans État.
Exactement, ce sont les libertariens. Ils sont nombreux à la Silicon Valley et dans les milieux de l'Internet. Ce sont des gens qui pensent que, au fond, la source de la plupart de nos problèmes, c'est l'État. Ils misent sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont les deux plus importantes. Ces crypto-monnaies sont très volatiles, comme on dit. Leur valeur en dollars ou en euros bouge d'un jour à l'autre et même du matin au soir. Et c'est pour ça que pour le moment, elles ne peuvent pas servir comme moyen d'échange dans nos activités quotidiennes. Mais pour les libertariens, l'existence des crypto-monnaies montre que l'on peut imaginer un monde où les monnaies seraient gérées directement par leurs utilisateurs, sans avoir besoin ni de l'État, ni des intermédiaires financiers.
Et pourtant, les crypto-monnaies se sont crashées mi-mai. Par exemple, la plus célèbre, le Bitcoin, qui s'échangeait à 68 000 dollars à l'automne, elle n'en vaut plus que 30 000.
Oui, le Bitcoin est très volatile. Ce n'est pas le premier crack du Bitcoin et ce n'est sans doute pas le dernier. Mais le crack a surtout révélé l'importance de ce qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des monnaies, des crypto-monnaies stables, dont la valeur est ancrée sur le dollar. Un Tether vaut 1 dollar. Un Tera valait 1 dollar. Et il devait continuer à valoir 1 dollar. Mais le crack, à mon sens, a révélé l'envers du décor. Quand les stablecoins ont décroché, le crack s'est accentué. Forcément, les stablecoins jouent un rôle essentiel. Ils doivent être là. Et si elles doivent être là, ça veut dire que le dollar est derrière, ou l'euro est derrière. Autrement dit, le marché a besoin que certaines crypto-monnaies soient ancrées sur la monnaie de l'État. Et le corollaire s'ensuit logiquement. Si les cryptos dépendent pour leur existence même de la monnaie de l'État, eh bien elles ne pourront jamais s'y substituer. Les cryptos, le Bitcoin ou l'Ethereum ne remplaceront jamais le dollar ou l'euro.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Aujourd'hui, on s'est laissé entraîner dans l'histoire d'un loser, l'histoire d'un papa qui n'a plus rien à perdre. Un papa en pleine crise familiale, en pleine crise de la quarantaine, crise sociale, crise de nerfs. Ça s'appelle Petiote, c'est Jean-Claude Van Troyen du service culture qui nous parle de ce livre écrit par Benoît Philippon.
Benoît Philippon est un auteur qui aime les gens cabossés. Et Gus est un type cabossé. Il n'a plus de boulot. Sa femme l'a quitté. Il n'a même plus le droit de visite pour sa petite fille Émilie, qu'il appelle Petiote. D'où le titre du livre. Il est un peu désespéré. Il n'a plus rien à faire. Et il veut absolument garder un lien avec cette Émilie qu'il rejette pourtant. Il veut garder un droit de garde. Mais la justice vient d'en empêcher. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va faire le con, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de livre. Gus, c'est son nom, va donc prendre tout un hôtel en otage et sa petite fille pour tenter d'avoir, d'une manière légale ou illégale, un droit de visite, etc. Dans cet hôtel miteux, il y a Cerise, qui est une jeune prostituée à la perruque mauve, mais qui va l'aider dans son entreprise. Il y a aussi un mafieux qui vend des armes. Il y a aussi non, des chouettes types, le patron, un espèce de clochard qui est là tout le temps, qui vont être des otages un peu complices. Et puis un couple qui se rencontre dans cet hôtel miteux qui va vraiment avoir peur. Il y a évidemment un appel à la police pour dire voilà ce que je revendique. Et la police va envoyer une de ses spécialistes, le lieutenant Mia. On va essayer d'arranger les affaires et que malgré tout, Émilie puisse rester avec son père, parce qu'Émilie est otage elle aussi. Comment peut-il encore générer un semblant d'amour envers sa fille? Comment lui va s'en sortir? Je ne le dirai pas. C'est un bouquin dramatique, mais c'est un bouquin très rigolo en même temps. C'est écrit d'une manière très enlevée, très légère, avec de l'argot là où il faut et des gros mots là où il faut aussi. C'est emballant. On est vraiment porté par cette histoire. Et puis on est porté aussi par ce père qui, en fin de compte, ne sait plus quoi faire pour avoir la garde de sa fille. Et ça fait résonner des choses dans cette société où, par un bout de papier, on peut gommer le besoin, le désir, la nécessité d'un père de connaître bien son enfant. C'est Petiote de Benoît Philippon et c'est chez les Arènes, collection Equinox.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.